Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Courtier. Nico, comment vas-tu?
Bonjour à tous, bonjour Maïa Kanafi, la forme et toi?
La forme de ouf, émission retour à la normale après une émission spéciale FF7 la semaine dernière. Donc là, si voilà, deux chroniques, deux jeux. Si vous en avez marre de FF7, hélas, on revient la semaine prochaine avec le Third Strike EX, dans lequel on va parler de FF7 Rebirth en long, en large, en travers, avec tous les deux et Damien. Donc voilà, si vous aimez pas FF7, bah, écoutez cette émission, parce que voilà, il va y avoir des jeux vidéo variés pour tous les publics. On va parler de quoi en premier lieu?
On va parler de Alone in the Dark, hein, le retour de la licence culte sur le devant de la scène, mais pas que, aussi d'une certaine princesse.
Dans la seconde partie de l'émission, voilà, on va parler de Super Princess Peach, un jeu très sympa, mais pas forcément pour tout le monde. Vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur l'épisode de la semaine dernière, ou même de cette semaine. Il y a eu un second Red Alert cette semaine, lundi, avec notre nouvelle formule, qui était évidemment un poisson d'avril, mais dont vous avez réclamé un retour sur. Voilà, donc juste au passage, ça nous a fait marrer de le faire.
Ouais, donc bon, l'émission où on bouffe du poisson n'importe quoi, du poulet avec non, des sauces pimentées.
C'est du poison, comment.
Et autant ça nous a bien fait marrer à le faire, mais j'ai l'impression que ça vous a bien fait marrer aussi. Donc voilà, c'était rigolo, c'était très organisé. Hein, tu nous avais préparé ça au cordeau. Et voilà, on s'est bien marré.
Beaucoup de retours, merci. Voilà pour vous avez apprécié ce poisson d'avril. Beaucoup de retours pour moi aussi. Beaucoup de gens qui se sont souciés de
oui,
mon état.
Un moment de souffrance.
Je l'ai très très mal vécu. C'est vrai que la seconde, donc il y a une sauce à 1 million qui s'appelle la Dabombe et qu'on a tenté avec Ken une seconde fois. Et tu as très bien supporté la première. Tu ne t'es pas risqué à une seconde, donc on t'appelle Nico le clairvoyant.
Voilà, exactement.
et voilà, ma seconde run a été un peu compliqué. Mais en fait, Ken a fait un super montage. Donc voilà, c'est une 10 minutes de blague où on mange des sauces épicées à la Hot Ones du jeu vidéo. Mais nous, ça a duré plus longtemps. Et en fait, moi, j'ai souffert très fortement. Mais une fois que ça passe, vraiment, après, tu t'es soulagé, quoi.
Oui, parce que, on a dû filmer, quoi, 40 minutes, à peu près. Comme on dit, on avait oublié de lancer l'enregistrement vidéo sur toute la première partie, mais bon, c'était pas très intéressant, donc ça changeait rien. Mais ouais, c'était cool, et puis voilà, c'est cool d'avoir concentré ça en 10 minutes pour
juste. C'est ça que, on a l'impression qu'on est très chill, et quand on va mal, on a l'impression qu'on va vraiment très mal, parce que c'est le concentré. Voilà pour cette blague. Bon, on vous donne rendez-vous pour l'année prochaine, peut-être, pour une blague, on sait pas. Des fois, peut-être qu'on fera pas de blague, ça sera ça le poisson d'avril. On retourne au jeu vidéo, et dans sa forme normale, non épicée, quoique, est-ce que Alone in the Dark sera pimenté?
Un manque d'épices, c'est peut-être la conclusion qu'on tirera de tout ça, effectivement. Est-ce que tu es familier avec le syndrome de la page blanche?
Non,
il s'agit c'est un trouble psychique, en fait, hein, donc c'est de l'écrivain ou d'un artiste au global. C'est quand il n'arrive pas à lancer ou à poursuivre une œuvre. Tu vois, il est un petit peu bloqué devant sa page blanche, comme ça, il sait pas. Il y a vraiment quelque chose mentalement qui l'empêche de progresser. C'est très largement utilisé dans la fiction, hein, et notamment dans le jeu vidéo. Le premier Alan Wake, c'en est un bon exemple, jeu que tu apprécies particulièrement. Et souvent, dans ces cas-là, l'auteur décide de se rendre dans un endroit isolé, coupé du monde, pour tenter de se ressourcer, retrouver l'inspiration. Et le manoir d'Erceto, le lieu dans lequel se passe Alone in the Dark, c'est exactement ça, en fait. C'est à mi-chemin entre une maison de repos et presque un asile aussi, qui va accueillir des artistes victimes du syndrome de la page blanche ou des patients un petit peu perturbés.
Okay.
Et ce syndrome de la page blanche, c'est aussi celui du chroniqueur jeu vidéo qui doit parler d'un jeu qui n'est ni véritablement mauvais, ni vraiment excellent, en fait.
Okay.
Donc c'est peut-être cet entre-deux qui est le pire des cas à traiter, je trouve, en tout cas, quoi. Et vous l'avez compris, donc on va parler de Alone in the Dark, ce jeu où il manque peut-être un petit peu d'épices. Donc
il s'appelle Alone in the Dark tout court.
Tout court, ouais. Parce que Alone in the Dark, tu fais bien de le rappeler, c'est avant tout un jeu mythique, hein, donc une version de 1992, le premier épisode qui a lancé la saga et qui a été un marqueur pour l'industrie, tant en termes de révolution technologique, hein, parce qu'on avait ces décors en 2D un peu précalculés et ces persos qui évoluent en 3D dessus, autant aussi que par son game design, hein, donc qui avait initié le genre du survival horror, où voilà, on avançait à tâtons, on résolvait des énigmes, on défonçait des ennemis avec très peu de combats, quelque chose vraiment qui misait sur une ambiance horrifique, hein. Il y avait des pièges qui se déclenchaient, on pouvait mourir à tout instant.
Les caméras fixes.
Donc, on sait, par contre, le destin des précurseurs n'est pas forcément toujours celui d'être le plus famous à la fin.
C'est clair.
Qu'il switch en sait quelque chose, mais voilà, c'est bien la série Resident Evil, en tout cas, qui s'est accaparé cet héritage, allant jusqu'à inventer le terme survival horror, tout bêtement. Et c'est bien Resident Evil qui restait depuis la saga reine en ce domaine, au détriment un petit peu d'Alone in the Dark, hein, avec des épisodes suivants de la franchise qui ont alterné entre, on va dire, suites un petit peu bancales, des épisodes efficaces mais peut-être un peu suiveurs, mm-hmm. des tentatives novatrices mais un petit peu cassées, pour ne pas dire beaucoup cassées.
Je vois où tu en es là dans la chronologie.
Jusqu'à un essai multijoueur complètement hors de propos récent que tout le monde a à peu près oublié, à raison quoi. Et des cendres de cette saga, en fait, il reste des passionnés. Hein. Il reste notamment Nicolas Denechaud, notre auteur qu'on connaît très bien et qui a écrit un livre sur le sujet, sur la série Alone in the Dark, qu'on vous conseille évidemment parce qu'il a pu rencontrer, discuter avec tous les créateurs de la saga, partir un peu mener son enquête.
Ouais, qui a écrit un livre qui a mené une enquête.
Exactement, sur les origines de cette affaire qui est passionnant. Et un autre passionné, mais c'est Mikael Hedberg, aussi connu comme l'auteur, donc l'écrivain, auteur de très bons jeux Amnesia, Dark Descent et Soma. Ouais. Donc ils sont assez connus, reconnus. Moi j'avoue, je les ai pas fait. Mais qui ont une très bonne réputation, quoi. Et pendant que le premier, donc Nicolas, décidait de rendre hommage à la saga à travers un livre, bah le second, lui, préparait la renaissance de la série en jeu vidéo. Et il explique dans la postface de notif, parce qu'il nous a fait l'amitié de nous signer la postface, bah qu'il avait choisi de prendre tout bêtement l'angle du fan, en fait, pour ce nouvel épisode, de lui se mettre dans cette peau dans laquelle il est, hein, oui. Et de prendre ça comme base de ses idées, quelque part. Et qu'il va, il souhaitait miser à fond sur l'héritage des précédents titres, et sur le fond lovecraftien de la saga, qu'on connaît très bien là-dessus, quoi. Et donc, on découvre, bah, cette année, voilà, après plusieurs reports, hein, il y a eu deux reports, je crois, un nouvel épisode de Alone in the Dark. Alors, développé par le studio suédois de PC Interactive, qui est pas spécialement trop connu, hein. Ils ont fait Magicka 2 ou des extensions des jeux Titan Quest. Okay. C'est pas trop des trucs qui nous ont intéressés là-dessus. Et donc, ils vont ressusciter la saga sous la forme d'un TPS en 3D vu derrière l'épaule, comme on a un petit peu l'habitude de voir dernièrement, quoi.
Oui.
Et cette tendance relancée évidemment par le remake de RE2, qui a rappelé à tout le monde que le Survival Horror, ça peut aussi vendre, hein, et qui avait relancé vraiment toute une mode autour de cette résurrection du Survival avec le retour de Dead Space, avec le remake futur de Silent Hill 2 dans les cartons. Par contre, faut être clair, hein, parce que là, je parle de concurrence et des gros jeux, mais cette Alone in the Dark, on se situe clairement dans les eaux du AA, donc le jeu est vendu moins cher, il est à 60 euros, okay. Et on voit qu'il a un scope quand même moins imposant et une technologie moins aboutie que les jeux dont on vient de parler. Ça se signale par le biais de visages, hein, qui sont peu expressifs, hein, mm-hmm. là-dessus. Une aventure qui est assez courte, hein. Moi, j'ai mis moins de 7 heures pour l'aventure avec le personnage masculin et 11 heures au global en faisant l'aventure avec le personnage féminin en plus. Il y a peu d'armes au global, peu d'ennemis, donc voilà, là-dessus, il faut qu'on garde ça en tête. Ça fait quand même partie des choses à savoir, quoi. Et je parlais des remakes de Resident, mais cette fois, on se situe à la fois dans une nouveauté, mais aussi dans un reboot, dans un best-of, voire dans une relecture méta.
Ok, c'est
ça
pas
joue
clair.
Un peu sur plein de tableaux. C'est pas clair à dessin, on va dire, oui. Parce qu'il y a quand même une vraie approche derrière tout ça. Mais bon, j'en dis pas plus pour le moment, quoi.
D'accord.
En tout cas, cette fois-ci, donc le personnage d'Emily Hartwood, hein, qu'on peut incarner, elle va pas faire appel au détective Edward Gamby pour enquêter sur le suicide de son oncle, comme dans le jeu de base en 92, mais bien pour élucider la disparition de cet oncle. Donc on est plutôt à sa recherche, en fait.
Ok.
Et donc on se retrouve dans cette ambiance, voilà, Nouvelle-Orléans, années 20, musique jazzy, le bayou, toi je sais que ça te fait un petit peu kiffer, c'est, vrai, oui. C'est plutôt cool, quoi. Et donc on va alterner entre l'exploration du manoir d'Erceto, comme j'ai dit, ce qui est devenu un classique dans les Survival, on a connu le commissariat de RE2 ou le manoir de RE1.
Oui.
Donc avec ton lot à chaque fois d'énigmes à résoudre, de clés à trouver pour ouvrir les portes fermées, et des niveaux un petit peu plus linéaires qui sont, sans en dire trop, des sortes de songes un peu sortis d'un esprit torturé. Mmh. Et là, c'est là où ça va apporter un petit peu de variété aux environnements, avec un bayou mystérieux à explorer, avec un cimetière lugubre à visiter aussi. Et là, le scénario, on va dire qu'il coche un petit peu toutes les cases attendues, hein, tout ce qui est vaudou, possession, monstruosité, invoqué, un classique là-dedans, quoi. Et classique, bah, c'est vrai que c'est Alone in the Dark, c'est quand même le bon élève, hein. Il est efficace, il est appliqué. C'est là où je dis, même si je disais que ça manquait de piquant, ça reste un jeu très correct, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Et on est plus face à un jeu, finalement, un jeu d'ambiance qu'un jeu horrifique. Il n'y a pas trop de moments où tu vas vraiment, vraiment flipper. D'ailleurs, l'exploration et les énigmes sont davantage mis en avant que les combats. Et tant mieux, parce que les combats, ça reste la plaie du truc. Hein. Je crois que t'as pu... C'est le jeu, les combats, c'est quand même la galère. Hein.
Ouais, moi, c'est la plus grosse problématique que j'ai rencontrée, c'est les combats, parce que je les trouve pas spécialement intéressants et même handicapants. C'est-à-dire que dès le début, moi, je me suis fait prendre par deux monstres en tenaille au fond d'un couloir et je n'avais d'autre choix que de mourir. Et en fait, j'ai passé le jeu en facile et c'est tout de suite devenu beaucoup plus agréable parce que les combats sont devenus, en fait... accessoires.
Ouais, comme ils devraient l'être, quoi, finalement.
Ouais.
C'est vrai que moi, j'ai fait ma deuxième run en facile, et honnêtement, je vous le conseillerais, si vous lancez, faites le jeu en facile. Enfin, il y a aucun problème là-dessus.
Oui.
Ça change pas le jeu en lui-même, non. Hormis, voilà, ça atténue le côté chiant des combats. Donc c'est plutôt bienvenu, et même le boss de fin qui est un peu relou pour, on va dire, des raisons un petit peu de caméra et tout, donc pas pour les bonnes raisons.
Est-ce que ça, les combats, tu vas en reparler? Est-ce qu'on peut se poser
non,
dessus?
Non, parce que je trouve que ça a pas trop d'intérêt finalement.
Moi, alors je pense que c'est un prérequis pour faire un Alone in the Dark, mais je me suis vraiment, tout au long de ma partie, de me demander mais pourquoi ils étaient là? Parce que toutes les séquences où il n'y a pas de monstres, en fait, j'étais vraiment dans le kiff à me balader, à résoudre des énigmes qui sont simples, mais t'as des petits monstres qui arrivent, et en fait, je les trouve mais complètement inutile, donc j'ai trouvé ça dommage.
Ouais, on sait que dans ce cas-là, ça peut être aussi des pressions liées au marketing ou à l'éditeur qui dit non, il faut des combats, c'est comme ça que ça marche, les joueurs attendent ça, et c'est vrai que c'est aussi peut-être une pression des joueurs derrière, mais je suis d'accord avec toi, tout ce qui est combat, ça avait pu être évacué, et que ce temps et cet argent investi mis autre part, bah écoute, ça m'aurait pas dérangé du tout, carrément pas du tout, quoi. Donc, on va dire que derrière son game design et ses lignes du jeu reste un petit peu vieillotte, hein, tu vois, là-dessus. Et même l'écriture, qui était là où j'attendais le jeu, je la trouve pas forcément exceptionnelle. Il y a certaines pistes intéressantes, mais je trouve qu'il y a des ruptures de ton un peu étranges, où par exemple, t'as deux personnages qui voient quelque chose se passer devant eux complètement chelou, et dans la discussion, en fait, tu sens qu'ils sont pas du tout raccord avec les événements qui ont eu lieu, et même ils discutent comme s'il ne rien n'était des fois, ce qui crée des situations, je trouve, un petit peu étranges, alors peut-être à dessein, mais parfois aussi, tu te dis, mais secouez-vous un peu quand même, là. Il se passe un truc.
Moi, j'avais l'impression que c'était, je savais pas si c'était volontaire ou involontaire, parce que le jeu est perché, tu vois, très Lovecraftien, mais cette dissonance qu'il peut y avoir entre deux personnes qui discutent, je l'ai remarqué, mais je me suis dit, mais en fait, ils sont à l'ouest.
Ouais.
Et c'est plus latent. J'ai l'impression que tout le monde était un peu à l'ouest, parce que voilà, le personnage principal, il va aller d'une dimension à une autre, il lui arriver des trucs vraiment terrifiants ou très surprenants. Il a pas l'air spécialement de s'en soucier.
Oui, mais c'est vrai que tout le casting, hein, c'est des gens un peu dérangés qui ont des soucis. Enfin, ça peut s'expliquer aussi parce que ils ont quelque chose un petit peu.
En tout cas, je savais pas comment le prendre. Je savais pas me dire est-ce que c'est volontaire ou pas.
Donc un jeu bon élève classique appliqué, mais aussi très respectueux de ses aînés. Tu vois, c'est le jeu bien élevé. Tu vois, il va être respectueux de l'héritage laissé, mais à tel point qu'il va aligner les références à des points clés, à des histoires de la première trilogie, on va dire grosso modo.
Ok.
Il va même nommer ses personnages avec les noms des développeurs des jeux de l'époque, hein, tout ça, entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres petites surprises là-dessus. Et si j'en crois les experts, parce que je n'en suis pas, ça va s'avérer un jeu qui est d'une fidélité assez redoutable aux écrits de Lovecraft. Et donc, si vraiment c'est une littérature qui vous passionne, je pense que vous pouvez y trouver votre compte par ce biais-là, quoi.
Okay.
Le souci, justement, c'est que le joueur lambda, et je m'inclus volontiers là-dedans, donc le joueur qui n'est ni Nicolas Deneschaux ni Michael Hedberg, je pense qu'on n'a pas forcément le bagage suffisant pour apprécier toutes ces références à leur juste valeur. Et du coup, on a le point de vue que d'une aventure qui reste sage et peut-être trop prisonnière de ses inspirations quelque part, quoi. Et moi, j'attendais quelque chose qu'on sentait dans les trailers, une dimension méta, un petit peu comme c'est la mode actuellement, hein, et qui est bien présente, mais je trouve un petit peu trop en filigrane, pour être vraiment intéressante. D'accord. Moi, je voulais vraiment une relecture franche, tu vois, là. FF7 Remake, ou Rebirth of Evangelion, ou Matrix Resurrection, tu vois, qui sont des exemples assez récents. Mais ça reste un peu trop discret à mon goût. Même si, voilà, je dis, l'aventure réserve quand même des bonnes surprises. Des fois, tu vois, voilà, t'ouvres une porte, tu te retrouves dans un environnement complètement décalé, étonnant, avec, on l'a dit, une DA et des décors qui ont plutôt de la gueule, hein, pour un jeu de cette ampleur.
Ah oui,
en plus.
Ça, clairement.
Et moi, ça m'a évoqué Eternal Darkness, un jeu que j'aime beaucoup, pour le coup, très très Lovecraftien aussi. Alors, ça manque peut-être un peu du génie d'Eternal Darkness, et finalement, le jeu est peut-être déjà aussi vieillot que l'Eternal Darkness qui a 20 ans. Mais voilà, en plus, t'as une animation quand les persos ouvrent les portes, qui est toujours un peu en deux temps.
Ouais.
Et pour te dire à chaque fois, qu'est-ce qui va se passer derrière cette porte? Ça, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal, quoi.
Ouais, c'est clair. Mais tout ce qui est Lovecraftien, alors pareil comme toi, je suis pas du tout un expert, mais le seul truc que j'ai l'impression de comprendre, c'est que Lovecraft, c'est beaucoup l'indicible, et on parlait tout à l'heure du problème des monstres. Je trouve leur design pas très réussi et pas du tout dans ce délire de l'indicible. Alors évidemment, c'est compliqué de designer un monstre que tu n'es pas censé voir, et j'ai absolument aucune solution, hein, mais je les ai trouvés très frontaux, très... On est des monstres, tu vois, on est...
Ouais.
Après, j'ai pas les rêves, tu vois, est-ce que c'est le côté très reptilien, un crado, c'est pas Resident Evil, mais il y a quand même, ils ont beaucoup de dents, je trouve, les gros surtout, ils ont beaucoup de... Ça fait double peine, je trouve, pour les monstres. En revanche, et tu l'as souligné, l'ambiance, elle est ma boule. Vraiment, c'est un espèce de coup de cœur que j'ai eu sur, comme tu l'as dit, le Nouvelle-Orléans, le délire, tout ça. Mais les couleurs, elles sont sublimes.
Ouais.
La musique, justement, il y a beaucoup de silence. Et quand on entend de la musique, c'est très jazzy. Enfin, là, moi, l'ambiance, c'est gros coup de cœur.
Oui, alors c'est vrai que j'allais dire que toi qui as une affection pour les jeux un petit peu à l'ancienne, hein, je pense que ça peut peut-être te parler un peu plus qu'à moi.
Oui.
Mais c'est vrai que, alors là, c'est peut-être pas très fair de ma part, mais quand on compare à Alan Wake 2, pas en termes techniques, juste en termes d'écriture, mais des jeux qui mettent en scène, tu vois, la réalité qui se mêle à la fiction ou les représentations de la pensée qui prennent corps, tu vois, dans l'univers. Là, je trouve qu'Alan Wake a mis la barre bien plus haute et
du
coup, là, tu vois, on peut pas, enfin, il y a des questions de budget, évidemment, dans la représentation, mais en termes d'écriture, les deux sont sur un même plan, quoi, donc.
Parce qu'ils ont essayé, peut-être de façon maladroite, de faire ça par l'écrit, donc au premier degré, il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup de notes.
Ça, c'est un classique de la saga, ouais.
Mais je trouve qu'elles sont longues, les notes.
Oui.
Et, moi, les petites, je les ai lues, et je pense qu'ils ont mis l'argent, ils ont mis l'investissement là, parce qu'elles sont doublées, les notes. Et donc, c'est pas rien, et des fois, certaines qui sont quand même costauds.
Ouais.
Et est-ce que, ils ont voulu nous immerger par l'écrit, là où, en fait, justement, on va peut-être sortir du jeu, on se dit, ah, j'ai un pavé à lire. Je sais pas, est-ce qu'il y a pas peut-être une maladresse?
Les pavés, ouais, comme je te l'ai dit, c'est vraiment typique de la saga, et je pense qu'ils ont joué là-dessus à dessein. Mais effectivement, ils comptent beaucoup sur les notes pour te faire passer des infos et du contexte, on va dire, oui, autour de l'aventure, quoi.
Tu disais, c'est respectueux, mais est-ce que finalement, là, certaines formes de modernité qui s'éloignent?
Mais pour le coup, je conseille quand même vraiment de lire les notes, hein, même si vous avez la flemme, parce que ça apporte quelque chose vraiment à l'expérience.
C'est clair.
Et donc, on a, ben voilà, ces deux aventures, hein, donc on choisit d'incarner le personnage masculin ou féminin, comme dans le premier jeu, finalement. Mais qui sont trop peu différentes là aussi pour créer vraiment quelque chose d'assez intéressant. Donc t'as des variations de dialogue ou de scène en fonction du perso que tu incarnes, vraiment, mais globalement tu vas jouer la même aventure, tu vas avoir les mêmes énigmes, la même histoire. Chaque perso a un segment à lui, on va dire, d'à peu près 30 minutes, c'est un petit peu ledge, mais bon, ça vient un petit peu jouer sur la psyché de son perso. Et moi, de l'ensemble, j'ai un problème avec ces quêtes, on va dire, qui sont c'est où, en fait. C'est-à-dire que si tu incarnes le personnage masculin, ce qui se passera avec le perso féminin dans son histoire ne peut pas avoir lieu, en fait. C'est l'un ou l'autre, en fait. Les deux histoires ne peuvent pas coexister. Là où moi, j'aurais préféré une histoire où les deux coexistent. C'est-à-dire, si tu joues le perso masculin, qui va avoir des étrangetés, des monstres, il va s'en ouvrir à la personnage féminin, qui va lui dire, non mais mec, reste tranquille, t'es en train de péter un plomb. Et vice versa, si t'es le perso féminin, qui va s'inquiéter de ce qui se passe, et le perso masculin va dire, non, mais tranquille, y a rien de ouf, enfin, calme-toi, quoi.
Non, en fait, c'est deux, histoires alternatives et non pas deux histoires qui se superposent. C'est que vraiment, c'est...
Ouais, et alternative, c'est vite dit, quoi. Elles se ressemblent quand même beaucoup. Je sais que c'est des problématiques de budget parce que ça implique de refaire presque deux jeux, mais Alone in the Dark 4 le faisait à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, la version de Dark Works sur PlayStation 1 et Dreamcast, tout ça, où t'avais vraiment deux histoires bien distinctes, le perso masculin et féminin, qui commençaient pas au même endroit, qui avaient pas les mêmes types de gameplay, parce qu'il y en a un qui avait plus d'armes que l'autre. Pour le coup, ça, c'était vraiment cool. Et là, bon, on est plus sur un détail, mais je trouve qu'il y a un système un peu chelou de collection où tu vas ramasser pas mal d'objets. Ils veulent te mettre des interactions dans toutes les pièces, tu vois, pour pas que tu t'ennuies, donc t'as toujours des trucs à ramasser. Mais la collection, c'est des trucs qui servent juste, voilà, c'est un peu des collectibles, quelque part.
Mais ils sont classés.
Ouais, mais ce qui est rigolo, c'est que des fois, si tu en trouves trois, tu vas débloquer l'accès à un fusil. Parce que le fusil, il est enfermé dans une étagère en verre. Et pour le débloquer, la seule solution, c'est de trouver les trois éléments de cette collection-là. Et
dès que tu la trouves, j'imagine, au propriétaire du fusil ou un truc comme ça.
Ouais, mais bon, je trouve ça un petit peu chelou.
C'est un peu chelou, mais ça donne un intérêt à récolter les trucs.
Ouais.
Moi, j'ai trouvé intéressant, enfin, en tout cas sympathique. Moi, vous savez que j'aime bien les collectibles, tout ça, mais le fait qu'ils soient catégorisés en disant, ben, t'as une quinzaine de catégories avec à chaque fois trois objets de cette même catégorie qui vont débloquer. Alors, moi, ce que j'en ai pas débloqué beaucoup, mais qui te font comprendre que ça sera ou des objets, comme tu viens de le dire, importants, une arme, ou des informations, et ils seront, ou même plus.
Du lore aussi, tu peux avoir des effets supplémentaires sur le lore un peu périphérique, on va dire, c'est plutôt intéressant aussi. Ou voilà, même si vous voulez, voilà, débloquer les, on va dire, les secondes fins des aventures, ça passe aussi par ce système-là, quoi.
D'accord. Okay.
Et enfin, dernier petit détail, c'est que dès le début, on peut choisir entre un mode un peu old school ou un mode moderne dans le game design, on va dire, qui reprend ce qui se fait dans les Resident Remake. C'est-à-dire que, par exemple, tu sais, dans une pièce, tu l'explorais totalement ou s'il reste quelque chose à faire, en fonction de la couleur de la pièce. Si tu chopes une clé, on va t'indiquer tout de suite à quelle porte elle fonctionne. Si tu chopes un élément, on va te dire, ben voilà, ça y est, tu peux résoudre cette énigme en te la mettant en couleur sur la map. Certains pourront trouver ça trop assisté, trop facile. Moi, je trouve que ça me va parce que tourne en rond, voilà, j'ai déjà fait, c'est bon, j'ai plus...
Alors, c'est pas trop facile, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que comme les combats, moi, je les trouve pas ouf dans ce Line in the Dark, et que l'exploration, je la trouve intéressante, si sur cette map, donc quand tu dis les changements de couleur, c'est sur la map.
Ouais.
Si elle est bleue, c'est que vous avez encore... Ça, vous avez tout visité. Si elle est rouge, c'est qu'il reste quelque chose. Donc, vous pouvez continuer à zoner, ou il faut attendre que le scénario débloque ce fameux objet à débloquer. Si t'enlèves ça... vraiment il y a je trouve qu'il y a vraiment plus rien à faire quoi, t'imagines,
c'est de la balade, hein.
c'est de la balade assistée,
j'aime bien me balader moi.
Oui, mais à façon Ubisoft où hein, t'aurais un logo qui te dit va par là sur la map, c'est clairement ça. Si t'as une porte qui est bloquée, quand tu auras l'objet adéquat, il va te dire c'est cet objet qui va sur cette porte.
C'est vrai que ça peut rallonger la durée de vie, parce que c'est vrai que moi j'ai parlé d'une durée de vie plutôt ramassée, mais je pense que si on joue en mode classique, on va dire, bah tu vas fatalement un peu plus tourner.
Ça, je te disais, le chapitre 2 il est long. J'ai galéré.
Quoi qu'il en soit, on a déjà parlé hein, tous les deux il y a quelques temps, mais on se retrouve avec un petit peu une situation de plus en plus difficile, je trouve, pour ces double A dans l'industrie, parce que ils sont moins de fait portés au nu que les gros triple A qui tâchent les jeux qui poussent la technologie et l'industrie, ou même que les jeux indé ambitieux, tu vois, qui arrivent plus peut-être à se faire remarquer. Et c'est pas faire parce qu'on les compare à des productions qui ont des budgets peut-être 5 à 10 fois supérieurs, hein. Mais les standards ont augmenté, l'exigence des joueurs aussi, et du coup ces double A, ça, on se retrouve avec un vrai ventre mou, qui est beaucoup moins pertinent qu'à l'époque peut-être de la PS2 ou de la PS3, où vous avez peut-être leur place, c'était un peu, tu vois, les séries B au cinéma, ce genre de choses, quoi. Et à mon sens, pour exister, ces double A, ils ont deux options. C'est soit se rapprocher le plus possible du triple A, comme l'ont fait par exemple Plague Tale ou Banishers, qui, si tu les regardes de l'extérieur, tu peux te dire c'est du triple A, je peux y aller tranquillou. Ou alors trouver son gimmick vraiment pour se distinguer. Et pour le coup, je trouve que Line the Dark, cette Line the Dark là, ne fait aucun des deux, ce qui est un petit peu dommage. Tu vois, il manque la bonne idée, le truc qui aurait pu distinguer le jeu et l'ouvrir à un public sorti des connaisseurs, des purs connaisseurs. Parce que pour eux, j'imagine que c'est un régal, pour ceux qui connaissent bien la série et Lovecraft, mais combien sont-ils réellement, tu vois? Et c'est vrai qu'on parlait des combats, pourquoi avoir foutu des combats alors que t'aurais peut-être pu investir justement pour trouver cette idée, ce gimmick, machin?
Tu l'as dit, pourquoi, tout à l'heure. Ouais. C'est une question de marketing et c'est une question de d'essayer d'attirer le plus de gens quoi.
Et donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage parce que le jeu fait des choses bien, il y a des vraies bonnes ambiances qui sait mettre en place. Et pour au final, je trouve être juste moyen. Et je termine juste sur un détail que je trouve vraiment dommage pour le coup, c'est que t'as un commentaire audio des réalisateurs qui est accessible.
Ok.
Dans l'édition de luxe, si tu l'as pris, donc qui est plus cher. Mais sinon, faut payer ses 5€ en DLC. Je trouve que c'est un petit peu abusé. Ça typiquement, c'est le truc qu'on aurait dû nous offrir à la fin. Faire payer ça 5 balles, je trouve que c'est pas très très cool, quoi.
C'est vraiment pas cool.
Ça m'aurait beaucoup intéressé, en tout cas.
Moi, j'avais envie de rebondir sur ce qu'on disait sur pourquoi il y a eu des combats et pourquoi finalement ils ont été intégrés uniquement parce que c'est marketing, parce que c'est sûrement un push peut-être de l'éditeur qui a dit, ben non, il faut des combats, rends-toi compte, Saint Survival Aurore, il faut attirer le plus de gens. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question, pourquoi deux acteurs, pourquoi ne pas faire qu'un seul personnage avec une campagne, économiser sur tout ça pour en fait trouver cette features. Mais je pense que la réponse, elle est la même, c'est que c'est marketing. Pourquoi ils ont pris deux acteurs connus alors que leur investissement est moindre, hein, de toute façon c'est pas quelque chose qui est très important pour eux.
Et puis c'est du doublage qu'ils ont fait, pas de la performance capture, quoi.
Pourquoi ils ont le cachet doit être énorme? Parce que justement ça fait partie, je pense, d'une feature de marketing. On appelle ça souvent ou la killer features ou la key features. C'est quelque chose qui doit faire vendre. Toi, ce que t'estimes qui manque au jeu, mais je pense que vis-à-vis du grand public, c'est Jonathan Harbour.
C'est David Harbour.
David Harbour, c'est qui son frère, Jonathan.
Et Jodie Comer.
Jodie Comer.
Donc, ils sont deux bons acteurs.
Ouais, mais c'était...
Mais qui apparaît sur la jaquette, avec le côté deux aventures.
Ça fait parler.
De distingue, ouais.
Ça a fait parler. Et surtout, le fait de dire, il y a deux acteurs, il y a deux campagnes. C'est pas transformé dans le jeu à ton sens, mais pour le vendre, tu dis, il y a deux campagnes, il y a deux acteurs, il y a des combats. Après, voilà, le jeu, il est ce qu'il est. Ils ont dû faire, je pense, des coupes franches, justement, d'investissement dans le jeu pour financer ça. Ça a dû être énorme. Et ils auraient, j'imagine, créativement préféré dire, non, tes deux acteurs connus, tu dégages, tes deux campagnes, tu dégages, les combats, franchement, c'est accessoire, tu dégages, et se concentrer à fond, avoir une pure vision créative. Mais ça, c'est quelque chose qui est pas entendable aujourd'hui.
Oui.
T'as des impératifs de vente.
C'est vrai qu'on en parle entre nous, mais un jeu comme Silent Hill Shattered Memories, lui, pour le le coup, fait partie de ceux qui sont allés au bout de leur délire, où tu vois le fait qu'il n'y a pas de combat, par exemple, dans The Survival Horror. Mais c'est un jeu qui n'y a pas non plus cartonné, forcément.
Après, tu peux partir sur des Deadly Premonition, où même là, on l'a dit, tu rajoutes des combats, quoi.
Et qui sont une catastrophe aussi, quoi.
Et qui sont une catastrophe sans nom.
Après, là, il y a une fin secrète, il y a 5 fins en tout, mais il y a une fin secrète un petit peu rigolote qui tease clairement une suite. Donc on peut espérer voir peut-être arriver un nouvel épisode qui viendrait peut-être partir de ce socle-là pour trouver justement ce petit morceau qui lui manque.
Ouais. En tout cas, si vous avez un feeling, une appétence un petit peu pour les jeux à l'ancienne, ça peut vous plaire. Moi, même si j'ai trouvé que les énigmes, j'ai trouvé simplistes dans le sens où tu vas chercher une clé pour une porte et tu te retrouves vraiment comme dans Matrix, t'es le maître des clés, quoi. Ouais. C'est que vraiment t'as un porte-clé géant. Ça, j'ai trouvé ça pas dérangeant, mais
les énigmes sont pas très créatives. Ouais.
Ouais, mais tu vois, dans Resident Evil, si je continue la comparaison, si tu vas chercher un badge, un bouclier, un truc en forme d'épée, c'est un peu n'importe quoi.
C'est l'équivalent d'une clé, mais c'est un peu plus exotique.
Là, on est sur les clés, c'est absolument pas dérangeant, et moi, je trouve, j'aime bien chercher des clés et trouver les portes qui correspondent. Après, si vous avez aussi un petit feeling avec l'ambiance, moi, je vous conseille au moins peut-être la démo, qui est un prologue qui est périphérique.
Ouais, mais je sais pas si elle rend bien compte, parce que c'est vrai qu'on joue à un autre perso, il y a pas vraiment. Ouais.
Mais
au moins juste voir si l'ambiance et techniquement ça vous parle.
Mais l'ambiance, elle est vraiment. Moi, j'ai eu un coup de cœur. J'ai un coup de cœur sur l'ambiance, sur les phases un petit peu hallucinées qui sont, je trouve, vraiment magnifiques. L'ambiance musicale est ouf et tout. Tout le délire Bayou, Nouvelle-Orléans, ça répond présent. Après, j'ai pas fini le jeu. Je sais pas si sur la longueur ça tient. Mais moins ça, je trouve que c'est une réussite. Donc voilà. Si vous êtes un petit peu rétro, fan de Alone in the Dark, ça peut vous plaire.
Ouais, moi, c'est pour ça que j'y suis allé, de toute façon. Et j'ai trouvé mon compte à certains aspects. Donc, à voir, quoi.
Donc, Alone in the Dark, sans chiffres et non derrière. Alone in the Dark, tout court, si vous aimez bien la Nouvelle-Orléans et le rétro gaming.
Exactement.
Si vous en avez marre de FF7, c'est bientôt fini, mais pas encore. Semaine prochaine, sur Strike EX, je le rappelle, mais top 3, interlude top 3 sur les personnages de FF7. On s'est dit, tiens, ça sera forcément l'occasion de vous dire qu'on a fait une émission dédiée la semaine dernière, une émission dédiée semaine prochaine. On est à l'interlude de ces deux émissions.
Ça n'a pas l'air de vous déranger qu'on parle de FF7, de toute façon.
Donc, un top 3 un peu fastoche sur les personnages.
Fastoche, mais fun.
On verra. Est-ce que c'est fun? Allez, quel est ton top 3 des personnages de FF7?
Alors moi, je me suis basé sur le remake Rebirth. Après mon aventure, ça a évolué. Si j'avais fait top 3 des persos du FF7 de base, je pense que j'aurais pas donné les mêmes.
Okay.
Et notamment le 3, c'est Yuffie, en fait. Je commence par Yuffie,
ouais,
qui a tout pour être le perso horripilant, la gamine relou, qui est jamais contente, machin. Et je trouve qu'ils ont réussi à la gérer de manière super réussie. Elle est attachante, elle est sympathique, elle fait toujours des coups, elle te met toujours des coups comme les gamins. Là,
c'est ça, c'est dans l'original qu'elle faisait ça.
Ouais.
En fait, quand elle était sur place, tu sais, elle donnait des droites en l'air et en fait, elle faisait genre, je suis dynamique, ouais, je suis combattante. Et en fait, ils l'ont refait et c'est super. C'est comme, tu sais, c'est Firoz qui lève les deux bras. Que t'avais remarqué.
Ouais, ouais, ouais.
Ils ont réussi un peu.
Ils ont gardé les gimmicks un peu des machins, mais je trouve que elle est réussie justement là où ça me faisait peur. En fait, je trouve que le perso fonctionne grave, quoi.
Et puis, en combat, elle est trop, trop bien. Mais ça, c'est la
chance. Ils sont tous
vraiment trop bien. Mon personnage, moi, numéro 3, est aussi pas mal en combat, c'est Tifa. Alors voilà, ce n'est pas mon kink d'adolescent, donc arrêtez tout de suite. Mais elle a un design qui est cool, même sur les différentes itérations des jeux, sur Advent Children, qui est contestable à différents niveaux, mais en tout cas sur le design de Tifa, je le trouve vraiment ma boule, et elle se bat à main nue. Et je trouve ça vraiment trop stylé.
C'est vrai qu'elle met des patates de forain.
Elle met des patates de forain, sa limite dans l'original est trop cool, son système de combat dans le remake et Rebirth est trop cool.
Ouais, il est super.
Et puis elle est pénible à jouer parce qu'elle est risquée, quoi. C'est qu'elle, elle va au front, c'est elle qui prend le plus de dégâts. Donc moi, Tifa, c'est...
Valeur sûre.
C'est valeur sûre. Et puis, même si c'est pas mon king d'adolescent, on a tous été team Tifa ou Aerys. Et donc, c'est l'illustration. Moi, je suis team Tifa. C'est Pattinson qui s'est fait un peu chambrer.
Il était quel team, lui?
Il était team Tifa. Et,
scandale.
Oui, c'est... alors, comment elle s'appelle, la fille de...
Ah, d'accord. Zoé Kravitz.
Zoé Kravitz, ouais.
C'est avec Zoé Kravitz qui s'est foutu de sa gueule.
Qui s'est foutu de sa gueule de ouf, hein. Bref. En tout cas, voilà. Team Tifa, ici, on verra de quel team tu es peut-être après. Je ne sais pas, mais.
Certainement.
Quel est ton top 2?
Mon top 2, c'est Barrett. Barrett, qui était pas spécialement un perso que j'ai jamais plus apprécié que ça, même si j'avais rien contre lui. Au début de remake, il est insupportable, parce qu'il gueule tout le temps, il est chiant. Mais en fait, je trouve déjà que son doubleur VF est mortel et il a des façons de moduler sa voix pour passer justement du râleur insupportable au mec vraiment tu sens qu'il a connu de la souffrance et qui peut être justement un protecteur paternaliste et tout. Et en fait, je trouve que son évolution dans le Rebirth, elle est super cool. C'est un perso que je trouve très très drôle en fait et très sympathique. Et en plus, c'était c'est mon chouchou en combat. Je pense qu'il était tout le temps dans mon équipe.
Pareil, moi c'est mon chouchou
avec
en combat.
Avec ses munitions alternatives là et ses chocs, gros chocs techniques, t'as la gueule.
Grosse décharge. Mais je rebondis pas parce que peut-être qu'il sera dans mon top plus tard et pas maintenant. Donc on se demande bien où il est. Mon top 2, c'est Sid. En fait,
okay.
L'original et bon, là, on va peut-être reparler de Rebirth rapidement pour pas trop spoiler non plus. Mais Sid, je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant parce que en fait, il a déjà un passé qui est tragique. Alors ça, c'est quand même un point commun de tous les personnages de FF7, c'est qu'ils ont un passé tragique. Mais lui, il a un passé tragique très humain, avec des considérations très humaines. C'est-à-dire que lui, on lui a brisé son rêve d'enfance, même son rêve de vie, d'aller dans l'espace, parce que sa femme a annulé le décollage à raison. Et lui, il ne savait pas que c'était à raison, et donc il a le reste de sa vie pourri.
Il est aigri. Quoi.
Il est aigri. Il lui parle trop mal, tout ça. Et ce que je veux dire, c'est que c'est un personnage qui est complexe et qui a ce rapport humain. Moi, j'aime bien. Il a pas, tu vois, on lui a pas coupé un bras, ce genre de truc. C'est juste, il a.
Oui, on peut s'identifier peut-être plus facilement.
Peut-être.
En plus, c'est un vieux comme dans les JRPG, donc c'est un mec à 30 ans. Mais
ouais.
Pour eux, c'est genre, t'as l'impression que c'est le mec qui a vécu plein de vie, quoi.
Ouais. Et ce qui va être, je trouve intéressant, et je pense que ça prend peut-être pas cette direction, c'est que l'application dans Rebirth, dans le troisième épisode du coup, parce que là, on le croise dans Rebirth, mais on le joue pas. C'est pas un spoil. Hein, ça a été annoncé avant. Mais comment ils vont mettre ça en scène, c'est-à-dire que là, de dévoiler un personnage qui est pas toxique, mais il parle très très mal à sa femme, même s'il y aura rédemption par la suite, parce que par exemple la V2 du Haut-Vent dans Advent Children va le nommer Shera, donc le nom de sa femme. Et comment ils vont mettre ça en scène, est-ce qu'ils vont craindre de faire un personnage qui a, tu vois, des complexités ou des vices ou des travers qui se comporte mal, tout simplement. Et c'est aussi intéressant, tu vois. J'ai lu un truc sur Game of Thrones sur Tyrion là justement, et l'acteur a dit ben moi j'ai pris le rôle parce que il avait justement cette complexité d'être mais je suis pas que gentil. Et c'est rare dans les JRPG, t'as souvent un gros gros méchant, un gros gros gentil, et t'as pas trop de complexité. Et là, la complexité d'avoir des sentiments humains, moi j'ai trouvé ça cool. C'est pour ça que Sid.
Ok. Pour c'est ça, Sid, j'aime bien. Cool, il a un design en plus.
Son design est super. Même dans l'original, tu vois, il est simple, il a son petit foulard, il a une lance. Moi j'ai trouvé ça cool. J'ai hyper hâte de voir son gameplay dans le troisième volet. Et alors là, sans surprise, je te demande ton top 1, mais je pourrais, je pense, le dire.
Aerys, meilleur perso depuis FF7 original, en fait. Je trouve qu'elle a ce côté vraiment attachant, toujours positif, dynamique, un petit peu taquine et tout, hein, sous ses airs, un petit peu je veux pas y toucher, machin. Et je trouve ce qu'ils ont fait, c'est peut-être mes souvenirs qui me trahissent, mais je trouve que dans le remake et dans le Rebirth, ils ont rendu ça encore plus cool. C'est peut-être le perso le plus complexe à jouer, on va dire.
Elle est pas évidente.
Ouais, mais qui est là aussi fun, hein, si on s'y file un petit peu.
Ouais.
Et voilà, je trouve qu'ils ont même accentué son importance en termes de figure un peu centrale dans l'aventure, donc sans en dire trop, quoi. Donc carton plein pour ma part.
Ouais, Aerys elle est cool, mais moi je l'ai jamais dans mon équipe, et quand on m'oblige à la voir, ça me saoule. Mais j'adore son gameplay parce que Team Tifa. Donc tu vois, il faut quand même. Tu n'es pas Robert Pattinson. Quel dommage. Et mon top 1, tu l'as évoqué toi aussi. Moi c'est Barrett parce que ça a toujours été un perso que je kiffe de ouf. J'adore son traitement dans Rebirth et dans Remake, même si la scène de flashback qu'on ne vous dévoilera pas, je la trouve un peu moins bien que dans l'original. Tout pareil, cette figuration, la symbolique qui est un petit peu moins. En revanche, on en voit plus sur son passé, sur la façon dont il vit le passé quand il retourne à Corel. C'est vachement bien, ça on sait. On voit même des personnages qu'on voyait pas dans l'original. Et puis, c'est son rapport à son enfant, qui n'est pas le sien.
Ouais, il a quand même recueilli une orpheline.
Franchement, Barrett, top 1. Et en plus, top 1 de gameplay. Donc,
gars sûr.
Gars très 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 sûr. Alors,
personne n'a cité Cloud, hein, quand même.
Mais personne n'a cité Sephiroth.
C'est vrai.
Après, moi, je suis pas team, je suis toujours sidekick. Il y a pas vraiment de sidekick dans FF7. Et après, toute la team, elle est vraiment trop bien.
Ouais, parce que même Kate Seed, ou Kachi, comme on dit en japonais.
Si vous êtes japonais.
Il est ultra fun à jouer, et le perso, ce qu'ils ont fait aussi dans
c'est
les bugs, il est super cool.
C'est de concentrer vraiment sur la peluche et pas sur le gros mog. C'est vraiment brillant, ce qu'ils ont fait. Cloud, moi, je trouve son design vraiment mortel. C'est que...
Et le perso est intéressant aussi. Tu parlais de complexité avec Seed, on est aussi en plein dedans, hein.
Mais lui, il est plus dans le, tu vois, Sid, je disais, il avait un rapport humain. Cloud, c'est vraiment un héros, tu vois.
Oui.
Il est schizophrène, il se prend pour un autre soldat de première classe. Hein, c'est un truc de ouf, tu vois. Alors que l'autre, il est juste deg, quoi. Donc, n'hésitez pas à nous balancer votre top 3 des personnages de FF7 et à faire, si vous êtes fan de Genesis. Assumez-le, parce que Damien, c'est son cas, voilà. C'est son personnage préféré, donc voilà.
Nous, il nous a dit Genesis, Angel et Minerva, ses trois persos préférés.
Il adore Minerva aussi.
Final Fantasy VII.
Donc n'hésitez pas et n'ayez pas peur d'assumer les personnages de Crisis Core. Voilà pour cette parenthèse FF7 qui se refermera, je le répète, la semaine prochaine avec Answer Strike EX. Et cette seconde partie d'émission ne sera pas sur un JRPG, mais un jeu japonais. Est-ce qu'il est aussi important? Je ne sais pas. C'est Princess Peach Showtime. Donc tout à l'heure j'ai dit Super Princess Peach, mais c'est un autre jeu. C'est un autre jeu.
Ça
déjà
donne envie, ça donne envie.
Déjà, alors la vérité sur ce jeu, c'est que Nico et Ken étaient vraiment très chauds. Ça criait au GOTY depuis l'annonce. C'est vrai.
C'est vrai.
Et moi pas du tout. Vraiment, je pensais que c'était un party game complet et ça m'intéressait pas du tout comme en party game. Je trouvais ça naze. Alors que en réalité, une fois que j'ai commencé à jouer au jeu, j'ai réalisé que c'était un jeu de plateforme avec Peach dans lequel en fait on va se transformer à chaque niveau où on va comme ça se changer de costume. Donc il y a 10 costumes. T'as épéiste, sirène, pâtissière, enquêtrice, patineuse. Je vais pas toutes les faire, mais Kunufu ninja, Kunufu et ninja, c'est deux costumes différents. C'est vraiment, c'est pas, c'est
non,
pas
je
pareil.
T'ai plus.
Et donc, pour chaque, tu vas, voilà, endosser un costume et tu vas, à chaque fois, embrasser un nouveau gameplay, très différent à chaque fois. Donc, tu vas avoir, dans le jeu de pâtissier, quand t'es une pâtissière, c'est plus, tu vas devoir faire des gâteaux, c'est pas spécialement un jeu de plateforme, mais dans le reste, quand t'es épéiste ninja, tu vas avoir un peu d'infiltration, tout ça. Donc, c'est un vrai jeu de plateforme, avec des niveaux, un classique. Donc, plateforme, il y a des poncifs du jeu plateforme, hein, poncifs du jeu de plateforme 3D que j'évoquais dans le Red Alert 137. Donc, je vais vous renvoyer si vous voulez un petit peu plus de précision là-dessus. Mais ce Princess Peach ne fait pas exception. On a à nouveau un duo de personnages. Donc, Princess Peach et Stella avec sa petite étoile qui te suit partout. Mmh. Donc, on est, voilà, dans les grands classiques. Des collectibles. Ça aussi, hein, dans le jeu de plateforme. Donc, t'as 10 étoiles et un ruban à avoir dans chaque niveau. T'as un petit tableau qui te rappelle toutes tes collections. Tu débloques des niveaux bonus. Chaque étage, ça se passe dans un théâtre. En fait, c'est une façon de faire un peu à la Crash Bandicoot où tu vas avoir comme ça devant toi 4 niveaux et tu vas choisir ton niveau. T'as des défis plus corsés une fois que t'as fini ton niveau et que t'as tué ton boss, etc., etc. J'étais très très bien. C'est un jeu assez riche. Un jeu assez riche. Du moins pour un certain public. On va y revenir. Avant ça, on va parler de son personnage principal, hein, qui est Peach, qui est peut-être la nouvelle grande héroïne de Nintendo, et je serais tenté de dire, il serait temps, parce qu'on est quand même sur une des figures les plus connues avec Mario, et qui pourtant ne connaît avec ce Princess Peach Showtime que son second jeu. Mm-hmm. Le premier titre, c'était Super Princess Peach, qui est sorti sur DS en 2005, qui était un jeu de plateforme où en fait elle gérait un petit peu ses humeurs et ses gameplays. Alors moi, j'y ai pas joué, mais ça me branche bien. Moi, ça me branche aujourd'hui.
Oui, bon, je pense que ça passerait moins bien aujourd'hui. Hein.
Ça passerait moins bien, ouais, parce que tout de suite...
Ah, raison.
Tu vois, ah là là...
Les femmes, les humeurs...
Les humeurs.
Elle est en colère, elle est triste.
Mais c'est peut-être pas inintéressant au niveau gameplay, mais en tout cas, moi, j'y ai jamais joué, mais il m'a toujours vraiment branché. Une autre raison du pourquoi Princess Peach est mis en avant et que c'est une bonne chose, c'est que le film aussi, Un film qui est un véritable carton partout dans le monde et notamment en France, dans lequel film Princess Peach est hyper importante, super mis en avant.
Ouais, elle est badass, c'est presque l'héroïne. Hein, après.
Elle est quasiment l'héroïne. Alors, ce que je trouve rigolo, c'est que du coup, Mario est la star du cinéma et Peach est la star du théâtre, parce que le jeu se passe dans un théâtre, donc ils ont un petit peu leur terrain où Peach, alors théâtre, ça veut aussi dire cinéma, du coup, je ne sais pas si il y a un parallèle. Donc, ce jeu Princess Peach, à qui est-il destiné? Alors, si t'es chaud, je vais te poser une série de questions et on peut y répondre en mode fireboulette, sans forcément méga développé ou un petit peu si tu veux, pas de souci. Première question, est-ce que tous les jeux sont destinés à tout le monde?
Non.
Ok, moi non plus, je suis d'accord avec toi, c'est non. Est-ce que l'absence de challenge est un critère important dans le choix d'un jeu?
Oui, mais pas pour moi.
Exactement, moi je dirais tout dépend les joueurs et tout dépend les jeux. Est-ce que dans un walking simulator vous souciez du challenge? Je ne sais pas. Donc on commence déjà à voir, tout dépend les jeux, tout dépend les joueurs. Est-ce qu'un délire régressif, quelque chose un petit peu à l'ancienne, peut suffire à convaincre? Et là on parle même de...
Évidemment.
Oui, chef. Pour toi oui.
C'est agressif.
Est-ce qu'on peut dire qu'un jeu trop simpliste peut nous amuser?
Oui.
Oui, tu veux dire que...
Bah oui, enfin oui, Tetris, le truc, enfin je sais pas, juste jeter un anneau dans un truc là. Ouais.
D'accord, ah, ok. Et est-ce que le manque de complexité est quelque chose d'entendable pour le cinéma ou pour la bouffe? Les deux analogies stars de l'émission, par exemple, est-ce qu'on peut dire que des coquillettes, c'est un plat pas assez complexe pour être apprécié?
Alors Damien dirait oui.
Non, tu vois ce que je veux dire, oui, et oui, je oui. vois, est-ce que vous voyez où je veux en venir? Et de même pour le dessin animé, un dessin animé pour enfants, est-ce qu'on peut dire que c'est trop basique pour moi? Je sais pas, parce que dans tous les cas, les dessins animés, ben, c'est pas pour tous les publics, hein. Parce que déjà, on l'a déjà dit, le dessin animé, l'animation, c'est pas un genre, hein. Il y a tous les genres dans l'animation. Mais, si on parle de dessins animés, il y a certains qui parviennent à être pour tous les publics. On pense en premier lieu à Disney, Pixar, Studio Ghibli, mais il y en a d'autres, des dessins animés, des films d'animation qui sont que pour les enfants et d'autres qui sont que pour les adultes, genre Trotro et L'Attaque des Titans. On est sur de l'animation, on n'est pas forcément sur le même public. On n'attend pas la même chose d'un film, d'une série ou d'un jeu en fonction du public visé, et je pense que de toute façon, c'est pas grave de le constater. Par exemple, et j'en ai parlé déjà dans Red Alert, la nouvelle série Sonic de Netflix, elle est sympa, mais c'est pas Evangelion. Et c'est pas grave. Et on va pas juger de la même façon.
J'ai des images de Sonic crucifié là qui passent dans ma tête.
Mais ouais. Et tu vas pas juger de la même façon Sonic ou Evangelion. Et on jugera pas qui les regarde, de toute façon. Est-ce qu'on peut faire une petite interlude aussi là sur le fait que c'est le média qui va peut-être traiter le média qui traite le jeu, c'est peut-être aussi la façon dont la manière dont le jeu est traité qui va nous désigner son public. Par exemple, si Princess Peach est traité et analysé par Gamekult, bah, tu t'attends que le lectorat de Gamekult soit adulte, donc tu vas avoir un traitement du média plus adulte. Si Princess Peach est traité par Okapi et non pas Adopi, attention, bah, y aura peut-être un traitement qui est destiné justement aux enfants, donc un même jeu par deux médias différents n'aura pas le même traitement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est peut-être le média qui va peut-être changer les choses.
Ouais. Chaque média connaît son public et c'est à qui il s'adresse, quoi. Donc, et même en termes, le média, même le chroniqueur en lui-même aussi peut avoir son influence, quoi.
C'est clair. Pour la petite histoire, moi j'ai bossé pour GéoAdo, le magazine, vous savez, le magazine Géo vert, là, nature et découverte, là, tout ça. Mais pour les ados, j'ai bossé de ça plusieurs années. Et en fait, moi, on m'a clairement dit, ta rubrique jeux vidéo, elle est destinée aux ados, enfin jeunes ados, enfants. Donc, tu dois faire une sélection de jeux et un traitement qui est unique, qui est pour ta cible visée. Tu vas pas commencer à partir en analyse de game design
sur un jeu PEGI 18.
C'est pas la même chose. Mais bon, il y a une autre différence entre le cinéma, les séries, les jeux vidéo. Et oui, comme toujours, c'est l'interactivité. Parce qu'en plus du niveau de complexité qui est variable entre un film, un jeu, une série, le jeu vidéo, il va demander de la dextérité. Il va pas falloir simplement comprendre ce qui se passe, mais il va falloir comprendre quoi faire. Et dernière étape, il va falloir concrètement le faire. On n'a pas tous la même gestion de l'espace, hein. Alors, imaginez un enfant, la 2D, la 3D. Franchement, c'est un délire. C'est pas, tu vois, nous, on a grandi avec la 2D. On a petit à petit apprivoisé la 3D. Aujourd'hui, c'est vrai que, et je pourrais vous en témoigner, ils ont les deux approches tout de suite, donc ils le captent plus vite, je pense.
Mais après, ne serait-ce que tenir une manette aussi, quand on a des petites mains, c'est pas forcément évident.
Les sticks analogiques, atteindre tous les boutons, donc c'est vraiment, quand on est face à un film, on est quelque part pas tous égaux face à la complexité, un enfant va pas comprendre ce que toi tu vas comprendre, mais tu es égal.
L'accès en fait est le même.
Est le même, alors que dans le jeu vidéo, d'emblée, comme tu le dis, t'as les boutons, la manette, ne serait-ce que faire ce que t'as envie. L'enfant, il va dire, j'ai envie de faire ça, est-ce qu'il va forcément y arriver?
D'où la Wiimote et toute la philosophie de la Wii de Nintendo, de toute façon.
Exactement. Du coup, savoir où on met les pieds, c'est aussi la responsabilité de celui qui va voir un film ou de jouer un jeu. On va pas voir un film d'horreur avec un gamin pour à la suite en gueulant en sortant de la du ciné en disant mais j'ai eu peur ou mon gamin a eu peur. C'est un petit peu à nous de nous regarder. Néanmoins, il faut que les informations elles soient claires. Si on pense à aller voir une comédie et au final tu vas voir un film horreur, c'est moins la responsabilité du spectateur. Alors on n'en est pas du tout là avec Princess Peach, mais quand même on va se demander si le souci, ou en tout cas l'un des soucis, n'est pas aussi à attribuer à Nintendo, parce que se renseigner sur le jeu qu'on achète, c'est le minimum en tant que consommateur, surtout pour un enfant. Mais c'est aussi une obligation pour l'éditeur du jeu de bien renseigner le public. Et Nintendo, je trouve que il est pas super super clair. Je l'ai dit tout à l'heure, perso, moi j'avais pas très bien compris que c'était un jeu de plateforme, j'étais plus parti sur un party game, donc on est déjà le genre du jeu, moi je l'avais pas super bien compris sur les trailers où ils dévoilaient costume par costume façon jeu de baston. Moi j'avais plus compris que c'est un party game, c'est peut-être ma faute, mais je trouve que les trailers, toi tu t'en souviens des trailers, tu comprenais quoi toi?
Oui,
tu
après
c'est un GOTY toi.
Ouais, non mais après c'est vrai que on peut avoir tendance à regarder les trailers d'un œil aussi, je dis pas ça de manière péjorative, mais des fois on voit des trucs qui nous intéressent pas forcément, mais
t'as tout fait raison.
Je pense que ça a dû être dit que c'est un jeu de plateforme, tu vois, ils ont toujours des voix off pour présenter et tout.
Ah oui, j'avoue, c'est sur les voix. Ouais, parce que
je pense que c'est dit, mais voilà, comme tu dis, il faut s'y intéresser, voire y revenir a posteriori si jamais.
Parce que pour la chronique, j'ai rematé les trailers, c'est vrai qu'on voit des séquences plus ou moins clair de plateforme et ils mettent l'emphase sur les costumes. Néanmoins, les trailers, je les ai quand même pas regardés avec le son. Donc c'est vrai que j'ai pas fait gaffe au off. Donc t'as peut-être raison. Second point, un petit peu obscur au niveau de Nintendo, c'est qu'ils ont pas du tout communiqué sur le studio qui faisait ce jeu. Et on a su qui faisait le jeu uniquement au niveau, au moment de la démo ou au moment de la sortie publique avec les crédits et pas avant. Et qui fait le jeu, ben, alors c'est intéressant pour une certaine frange du public, mais c'est pas spécialement une info grand public.
Oui. Sens,
c'est pas
ceux qui s'intéressent à ça.
C'est pas tout le monde quoi. Néanmoins, ben, ce Princess Peach, c'est un jeu qui est développé par Goodfield, qui est un studio qui a été fondé par Etsuno Ebisu en 2005 après son départ de Konami. Il était connu chez Konami parce que il a travaillé sur la saga Goemon, donc à partir de Goemon 2, le 1 étant un jeu d'arcade, et après il est devenu l'une des têtes pensantes de la série. Et donc ce Etsuno Ebisu, il est producteur et réalisateur sur ce Princess Peach, et c'est la première fois qu'il a ce poste depuis Goemon 64, donc ça c'est pour le prestige, donc ça peut intéresser les gens ou les gamers qui vont être là à dire qui fait ce jeu, mais ça faisait un moment qu'il était vraiment plus dans les hautes strates.
Ouais, il a remis les mains dans le cambouis.
Et là, il a remis les mains dans le cambouis. Et donc, ce studio, qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Ben, Yoshi's Crafted World, Yoshi's Woolly World et Kirby au fil de l'aventure. Des jeux qui, si Nintendo avait communiqué sur l'antériorité du studio, auraient pu renseigner sur le côté peut-être un peu enfantin, le côté un peu simple ou simpliste. Donc, c'était des jeux qui étaient très do-it-yourself dans la direction artistique avec un travail sur la matière, la laine, le carton, qui était très très à la mode à l'époque, un petit peu moins en ce moment. Et c'est le cas, ce jeu Peach, il est un peu plus mesuré sur ce côté très marqué matière et do it yourself. Mais du coup, on se demande pourquoi ils ont caché la team. Est-ce que c'est volontaire? Alors, est-ce qu'on se prend la tête où il n'y a pas de manigance? Parce qu'ils ont fait exactement le même move avec Another Code Recollection, qui est développé par Arc System Works.
Ouais.
Pour le coup, je trouve que c'est
Arc
normal.
Arc System Works, c'est vrai.
Tu vois, mais pour le coup, je pense qu'ils ont bien fait parce que tu te dis Arc System Works, c'est un projet de commande, bis, qui font ça pour l'argent, mais tu te dis, vas-y, Recollection, jeu de combat.
Mais je pense que voilà, c'est pas une question de cachet, c'est que c'est la politique maison, en fait. Tout bêtement.
Qui change, parce que, tu vois, tu sais très bien qui fait les Metroid, tu sais très bien quand t'as des gros studios connus de chez Nintendo, ils communiquent.
Ouais, mais parce que c'est des jeux d'un calibre aussi différent, je pense. Là, c'est vrai que c'est, sans parler de jeux bis, hein, c'est des jeux un peu plus de seconde zone, on va dire. Hein. On sait que Nintendo délègue énormément, ils
beaucoup.
Ont un intelligent système aussi, machin. Enfin, ils ont un petit périphérique, enfin, ils ont des studios périphériques qui gravitent autour d'eux.
C'est vrai.
Et c'est vrai que Goodfield, c'est à eux qui confient leur jeu de plateforme un peu plus light, on va dire.
C'est vrai. En tout cas, pour Princess Peach, je pense que c'est dommage, en tout cas, de l'avoir caché, même si c'est une question de politique. Ça aurait pu rassurer les parents qui se disent « Ah, mais ce studio, je le connais, j'ai fait les précédents jeux. » Et ça aurait pu faire plaisir un petit peu aux joueurs un peu plus pointus en disant « Ah, mais Ebisu, il revient à la production, à la réalisation. » Après, est-ce que ça aurait pas justement fait un double discours?
Ouais, parce que trop d'attente aussi, peut-être.
Parce que les univers Nintendo, en règle générale, ils sont plutôt enfantins. Mais dans le sens où c'est leur direction artistique, mais ils ont une fanbase Nintendo qui va les suivre quoi que fasse Nintendo. Mais c'est des jeux en règle générale qui vont plaire à tout le monde parce qu'ils sont tout public, parce qu'ils ont plusieurs niveaux de lecture, etc., etc. Et là, sur ce Princess Peach, d'un point de vue extérieur, c'est difficile de le différencier d'un Luigi's Mansion 3. Et hormis la représentation graphique, qui, pour le coup, entre les deux jeux, je trouve, est assez similaire. Franchement, les deux jeux, ils ont absolument rien à voir. Là, Luigi's Mansion 3, c'est un jeu qui est tout public, qui a différents niveaux de lecture, qui peut s'apprécier si t'es un gamer chevronné, ou si t'es un joueur occasionnel, ou un enfant, ou un adulte, ou un vieux. C'est un jeu exceptionnel.
Universel.
Alors que Princess Peach, c'est pas trop ce cas-là. Donc voilà, le fait, s'ils avaient communiqué sur studio, on aurait pu s'attendre à un jeu de plus gros calibre, de plus grosse ampleur. En tout cas, comme Luigi's Mansion dans son gameplay, dans son discours, et c'est pas du tout le cas. Et c'est peut-être ça le problème. Au global, sur cette question de Nintendo, le souci, tout ça, je trouve que Nintendo, ils ont mal identifié le produit. Et c'est dommage parce que Princess Peach, c'est un petit manuel, et ça, c'est un petit manuel du jeu vidéo qui peut initier toute une frange de joueurs, de nouveaux joueurs à... l'infiltration, le jeu de plateforme, le puzzle, c'est vraiment une introduction parfaite au jeu vidéo, et je dirais même plus, c'est une introduction parfaite au jeu Nintendo. C'est un petit traité du jeu Nintendo, dans son feeling, manette en main, dans son gameplay, un boss, il faut le tuer 3 fois. Enfin, ça, c'est devenu universel, mais c'est une marque Nintendo. Et c'est un petit traité, quoi, pro Nintendo. Ils auraient dû, je pense, peut-être en faire un peu plus la propagande. En tout cas, être un petit peu plus clair, je trouve, sur le message, parce que je pense qu'il y a des fans de Nintendo, des joueurs de longue date, qui vont dire, je veux un Luigi's Mansion ou un jeu du calibre de Mario Wonder, peut-être pas en qualité, mais en termes de discours, en disant qu'il pourrait être aussi pour soi. Et c'est pas le cas. parce que Princess Peach, au final, et vous me voyez venir depuis tout à l'heure, c'est un très bon jeu. C'est un jeu qui est excellent, je trouve, mais c'est un très bon jeu pour les petits, voire pour les tout petits. Après, un jeu pour les petits, ça veut tout et rien dire. C'est assez compliqué, et c'est pour ça que j'ai sorti, pour ceux qui nous regardent en vidéo derrière nous, notre album jeunesse qui s'appelle Professeur Polymathus. C'est extrêmement dur. Nous, c'est notre unique tentative de faire de un album jeunesse, parce que c'est dur, c'est hyper dur de juger, en fait, à qui tu t'adresses, pour qui tu t'adresses. Le créneau précis d'âge, nous, on l'a éprouvé. C'est vraiment pas très simple.
Ouais, parce que là, quand tu grandis comme ça, c'est que, enfin, t'as des écarts qui sont gigantesques entre un enfant de 6 ans et un enfant de 8 ans. T'as pas les mêmes, même de stress en termes de motricité, d'intelligence ou de réflexion ou d'ouverture sur le monde. Enfin, t'as des jalons où en peu de temps, tu évolues considérablement, quoi. Et donc, du coup, si tu vises pas précisément le bon truc au bon moment, c'est compliqué, quoi.
C'est vraiment pas évident. Alors, moi, le jeu, je l'ai fait tout seul, mais je l'ai fait aussi avec mon fils, qui a 4 ans, et ça a super, super bien fonctionné. Donc, à 4 ans, il est petit, hein, mais il peut faire quelques niveaux tout seul, vraiment les premiers, tout ça. Après, avec les costumes, il arrive à un petit peu à bricoler, on va dire, mais il y a un gameplay à 2 boutons uniques, très Nintendo. Donc ça peut être très limité ou très limitant pour les joueurs chevronnés, mais pour les petits, ben il a compris qu'il y en avait un que c'était pour sauter et l'autre pour activer le pouvoir du costume. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. C'est un jeu qui est hyper riche visuellement, avec une mise en scène qui est vraiment trop trop bien, et ça je l'ai rapidement évoqué, mais c'est un titre qui se passe dans un théâtre, donc tout est mis en scène façon théâtre. Donc quand tu passes d'une scène à l'autre d'un même niveau, t'as un scrolling comme si en fait le décor du théâtre en fait bougeait. Tu as Peach, elle bouge pas, mais c'est le théâtre autour d'elle qui va bouger. Les ennemis en fait sont géré par des fils de marionnettes. Donc en fait, on est tout dans ce délire théâtre marionnette, et ça, on est quand même dans quelque chose qui est très très enfantin, mais quelque chose aussi qui est très stimulant. Tu vois, visuellement, il se passe plein de trucs, c'est très beau, les animations, elles sont mortelles et elles sont très très marquées. T'as beaucoup d'exagération. Ça aussi, tu vois, tu comprends que c'est pas à toi adulte qu'on te parle. Ils exagèrent de ouf. Par exemple, dans toute la séquence avec l'enquêtrice, à chaque fois que tu fais une déduction, donc quand t'as le costume d'enquêtrice, il n'y a pas d'action. C'est vraiment des petites enquêtes, petites faces. Ça va te plaire beaucoup. Et c'est des petites petits professeurs Layton, quoi. Ouais. Et à chaque fois que tu fais une déduction, t'as un truc à la professeur Layton où t'as Peach qui, de façon très lente, le projecteur se met sur elle, elle fait ha ha. Et en fait, moi, mon fils, il était mort de rire, et à chaque fois que j'appuyais sur la déduction, lui, il était là, il se levait, il faisait ha ha, tu vois. Alors, on s'en fout de mon fils et de ce que fait les enfants, mais c'est pour vous dire que le rythme qu'on va trouver nous haché, qui va être saccadé. Ah, tu dis, mais non, mais moi, je veux de l'action, allez, donne le niveau, c'est bon, j'ai compris. En fait, le côté très, on prend le temps et on exagère, mais pour les enfants, ça fonctionne à 2000%. D'ailleurs, ces petits niveaux de Princess Peach enquêtrice, les niveaux d'enquête, ils sont chiants, mais comme la pluie. Vraiment, si vous êtes un adulte ou si vous avez 11 ans, à partir de 11 ans, je pense que t'as envie de mourir tellement c'est pénible. Mais, tu vois, moi, mon petit, il a 4 ans, il a résolu toutes les énigmes. Oh, donc, ouais. Je te dis,
c'est un génie.
Non, c'est pas un génie. C'est que c'est un jeu, on est sur un jeu niveau bébé. C'est vraiment un jeu pour les petits. Après, lui, mon enfant, il peut pas, niveau dextérité, finir les niveaux. Donc, il a beaucoup regardé, il me disait quoi faire, tout ça. Il ne peut pas le finir tout seul parce qu'il galère, et déjà parce qu'il sait pas lire. Donc t'as vraiment,
c'est vrai, c'est un détail important.
Tu vois, tu dois lire à haute voix. Tout ça pour dire que moi, de mon expérience, j'ai l'impression que c'est un jeu qui est pour les moins de 10 ans. Si tu as peut-être 8, 9 ans, tu vas pouvoir finir le jeu tout seul, lire ton histoire, faire les niveaux même annexes. Donc, t'as des niveaux un petit peu plus complexes. T'as tous les niveaux de collectionnite où tu vas récupérer tous les objets, tout ça. Et t'as les boss qui sont pas durs, mais qui sont pas évidents non plus de ouf. Tu vois, ils sont assez intéressants. Ils ont des concepts un peu différents aussi. T'en as un où tu dois faire un petit peu d'infiltration. L'autre, c'est plus de l'action, tout ça. Donc, voilà. Moi, je dirais en dessous de 10 ans. Mais si vous avez 11 ans, vous pouvez déjà oublier ce jeu. C'est pas pour vous.
Ouais. Et puis il y a un pan aussi, enfin, qu'il faut pas négliger, je pense, le côté aussi pour les filles. Alors je dis pas ça, ah, il y a une princesse, c'est rose, c'est pour les filles. Mais c'est justement les jeux qui mettent en scène des personnages féminins déjà au premier plan. Il y en a pas beaucoup. Et les enfants ont besoin d'icônes aussi auxquelles s'identifier, auxquelles s'attacher. Ça peut plaire évidemment à des garçons, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est cool aussi de mettre en avant des persos féminins.
Oui.
Pour les petites filles qui ont vu le film Super Mario, qui peuvent avoir le jeu sur la princesse là-dedans, je trouve ça salutaire. Et je trouve que globalement, c'est bien de remettre aussi en question, enfin, de dire que voilà, tous les jeux sont pas pour tout le monde, parce que je trouve qu'il y a quand même un certain égoïsme des joueurs au global, qui veulent que tout soit pour eux. et qui peuvent pas comprendre des fois que tel jeu, ils prennent une décision qui va pas dans leur sens, ils sont scandalisés souvent les mecs quoi. Et t'as envie de dire mais restez tranquille quoi.
Et c'est, notamment Nintendo, parce que Nintendo se fait rare, hein. Enfin ils sortent pas des jeux tous les 15 jours. Et quand t'as un nouveau jeu Nintendo, ben t'as envie de te dire ben moi je veux ma nouvelle pépite, parce que c'est souvent, ouais, je suis obligé de le dire, hein, c'est souvent carré quand même. Nintendo c'est pas mal ce qu'ils font. Et donc là tu peux nourrir une certaine forme de frustration que je peux comprendre, mais c'est juste que ben là on a un jeu qui est propre, qui est carré. Alors oui, moi j'ai lu un petit peu des critiques de grands médias, tout ça, qui vont dire évidemment le jeu il est pas stable, t'es pas en 30 FPS, tout ça. C'est vrai, mais je vous jure hein, que quand t'es très très jeune, ça se voit pas. Donc ça veut pas dire qu'il faut fournir aux plus petits des jeux qui sont pas de qualité.
Ou
de
oui, il faut rester exigeant, mais j'ai l'impression que le jeu remplit son office là-dessus. Quoi.
À 2000%. Dernier petit mot, et ça c'est pour les adultes. C'est pour vous, c'est un jeu qui est à 60€. Est-ce que c'est trop cher? Et je pense pas du tout. Ils sont très malins, parce que s'il y a bien une barrière qui n'existe pas qu'un enfant, c'est le prix. C'est donc, du coup, si le jeu était à 70 balles, même, si ton gamin il te dit je veux ça, bah, tu te plies et tu fais plaisir. En tout cas, moi, très personnellement, j'y ai eu un petit peu de plaisir, très régressif aussi. Moi, j'aime bien la série des super Lucky Stale, hein. Je t'en parle et tu te moques. Mais j'aime bien. Alors, ça va pas pisser méga loin, mais t'as un petit plaisir de collectionnite et tout. Tu peux y trouver ton compte. En tout cas, c'est un vrai bonheur en duo. Et si vous avez un enfant, moi, je peux que vous le conseiller très, très chaudement, en tout cas.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est un débat intéressant, chouf. Tu vois, comme tu l'as dit, on peut comparer Nintendo à Disney ou Pixar, le côté on fait des produits qui doivent plaire à tout le monde, en fait. Mais nous, on a été des joueurs de Super Mario, je sais pas, on avait 6 ans, et aujourd'hui, on a joué à Super Mario Wonder, on a 40 balais. Oui. Et est-ce qu'on doit... Enfin, comme tu dis, on n'a pas la même vue sur le jeu, est-ce qu'il doit atteindre les mêmes objectifs pour nous plaire? Est-ce qu'on doit réclamer à ce qu'il soit toujours pour nous, le jeu? Ou est-ce qu'on doit dire, ben non, mais c'est plus pour moi maintenant, faut que Et Nintendo, qui est un éditeur qui a une éditoriale très marquée, avec des jeux qu'on, voilà, qui déclinent aussi sur les années, c'est intéressant, je trouve, de nous voir, nous, le public, je sais pas, initial, mais tu vois, l'explosion de Nintendo, ça correspond vraiment à notre jeunesse à nous, ben d'arriver dans des âges où peut-être, ben on va peut-être pouvoir se dire, mais Nintendo, c'est plus pour nous, ou alors, si, certains jeux seront encore pour nous malgré tout, mais... Comme je disais, je trouve ça compliqué d'avoir des exigences en disant mais ça fait 40 ans que je joue au jeu Nintendo, je veux que ce jeu soit toujours pour moi et qu'il me parle. Enfin,
et en plus c'est un procès dur pour Nintendo qui n'a pas pivoté sur l'ensemble de son catalogue. C'est un titre parmi tant d'autres et ils viennent de nous pondre quand même un Zelda et un Mario Wonder exceptionnel. Enfin, c'est bon, tu vois, ils ont pas.
Mais ils se sont toujours aussi réclamés de faire des jeux pour les enfants, bien pour la jeunesse.
Et je pense qu'on a, enfin, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Et rétrospectivement, ça serait intéressant de voir est-ce qu'ils même à notre époque, est-ce que tous les Mario étaient pour tous? Rappelle-toi le premier Mario Game Boy, comment il s'appelait,
Mario Land.
Je crois que il est méga court, il est méga simple parce qu'il était
destiné. C'était une autre équipe, avec des niveaux plus courts.
Parce que destiné à la Game Boy. Tu vois, ils avaient déjà un petit peu cette philosophie de, on va adapter notre jeu et notre plus grande icône, aux différents publics, tu vois. Et c'était, nous, on s'en rendait pas compte parce qu'on était la cible.
Mais là où peut-être Zelda, avec depuis la nouvelle formule Breath of the Wild, lui. C'est peut-être plus, au contraire, détourné vers un public plus âgé, comme on l'a dit, qui demandait une dextérité. Alors, ça peut plaire à tout le monde, évidemment. Mais peut-être que c'est le jeu le plus difficile à aborder, le jeu Nintendo le plus complexe à aborder, quoi.
Alors là, c'est vrai que Zelda TOTK, là, pour le coup, si t'as moins de 10 ans... Après, peut-être que moi, j'estime mal. C'est dur aussi de savoir.
Oui, t'es petit, t'es malin, tu t'adaptes à tout et...
C'est clair, je sais pas du tout. Là, vraiment, moi, je vous parle de mon expérience avec un tout petit. Mais ça relève aussi de la difficulté que je vous ai évoquée tout à l'heure, de quand tu produit ce genre de jeu, de livre et tout, c'est hyper dur d'estimer, de taper très précisément. Et là, nous, avec un bouquin, avec un album jeunesse, on avait, tu vois, un créneau de quelques années. Là, sur ce Princess Peach, je pense que le prisme, il est un peu plus grand, tu vois. Tu peux taper, tu peux dire entre 4 et 10 ans, 4 et 9 ans. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours, hein, parce que si vous nous écoutez, vous êtes jeunes, mais peut-être que vous avez notre âge. Je crois que d'après les stats, c'est plus ou moins le cas. Ouais. Donc voilà, si vous avez des expériences communes en famille, si ça vous a plu, si ça vous tente, à nous faire nos retours sur Peach et sur Alone in the Dark. Parce que si vous avez notre âge, vous avez connu Alone in the Dark.
Ne jouez pas avec votre enfant Alone in the Dark.
C'est clair. Non, j'allais te dire, non, je l'ai pas fait. Mais non, c'est clair que c'est un jeu d'horreur. Oui, il y a quand même des monstres avec du verre et des dents partout. Voilà pour ce raid alerte. Merci encore à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Merci à tous pour votre fidélité. Et ça, depuis la semaine dernière, hein, fidélité accrue avec le raid alerte Hot Ones.
Ouais, qui a fait exploser les stats.
Qui s'appelle, je sais pas si vous avez vu, c'est raid alerte dans la sauce.
Dans la sauce. Et le générique, maté surtout le générique, c'est Ken qui s'est fait, qui a vraiment bossé le truc. Et il y a des easter eggs rigolos partout, quoi.
Ouais, il y a des trucs vraiment marrants. Donc voilà, n'hésitez pas, toujours pareil, on vous le dit, hein, parce que ça nous aide beaucoup. C'est sur YouTube, les pouces, les abonnements YouTube qui ont un peu monté avec le défi. On vous a fait croire qu'on n'allait pas vous dévoiler l'émission entière du Hot Ones Red Alert, mais on l'a finalement fait. Mais merci pour votre soutien. Juste avant, si vous nous écoutez en podcast et vous le savez pas, mais vous l'avez peut-être compris, on fait des podcasts, mais on fait aussi des livres, et notamment des livres sur Alone in the Dark.
Et effectivement, il est derrière nous, donc un livre sur la saga, donc majoritairement française, qui nous a permis, enfin en tout cas notre auteur, de mener une véritable enquête pour interroger tous les suspects impliqués dans cette vaste affaire, et de faire en déroulé de cette saga culte. Pourquoi elle est culte? Pourquoi elle est encore importante, même si tous les jeux ne sont pas forcément de grande qualité, mais ça reste une saga hyper importante et qui nous tient à cœur. Et puis, si vous aimez pas Alone in the Dark, on a des centaines d'autres livres, hein, que ce soit en jeu vidéo ou en pop culture.
Survival Horror, il y a du Resident Evil.
Non, je sais plus, du Silent Hill, il y a de tout.
Il y a de tout. Donc, voilà pour le petit topo habituel. Et la question, voilà, habituelle aussi, c'est la semaine prochaine, il se passe quoi dans Red Alert? Donc, n'ayez pas peur.
Mais il n'y a pas de raid alert.
Il n'y a pas de raid alert, mais on vous laisse pas sans rien.
Ouais, alors là, il va y avoir 2 semaines, a priori, sans raid alert, parce que, on a du boulot. On a beaucoup de bouquins à boucler pour envoyer, mais on vous laisse pas tout seul comme
d'habitude. On vous prépare cet été dans les librairies, là, et puis des gros bouquins pour la Japan Expo.
Ouais. Donc, la semaine prochaine, le Star Strike EX sur FF7, plus de 2h30, je crois. On parle du jeu en spoilant comme salles et tout. Vous allez vous marrer. Et la semaine d'après, ça sera un sort d'émission, sur, alors, c'est quoi, c'est sur?
Alors, c'est, attends.
On vous dit pas, peut-être.
Si, je crois qu'on dit, c'est FF12.
C'est FF12.
C'est FF12. La semaine prochaine, il y a un sort d'émission avec Rémi Lopez sur FF12, et mercredi, un Sand Teams sur John Williams.
Exactement.
Donc il y a pas de raid alert, mais il y a 3 émissions.
Et donc sachez que si vous nous écoutez à la sortie de ce podcast et que vous êtes premium, vous pouvez déjà commander notre livre sur John Williams. On vous encourage vraiment à essayer, à aller vous laisser tenter, même si c'est pas forcément un univers qui vous intéresse ou quoi. Enfin, John Williams, c'est
Star Wars, tout ça.
Le pape des musiques de films. On a tous, je pense qu'on aime tous les films où il a fait quelques compositions dedans. Donc, laissez-vous tenter.
La musique, c'est cool. John Williams, c'est cool. Donc,
certes, c'est cool.
Donc voilà, certes, c'est cool. Red Alert cool. Dans 3 semaines, mais 3 émissions pour les 15 jours à venir. Et on s'en est sorti. Allez, merci beaucoup et à bientôt.
Ciao.